Imaginez une ville brûlée par les Français, ravagée par la peste et utilisée comme campement par l'armée de Napoléon. En toute logique, cette ville devrait même plus exister.
Ah bah c'est sûr, ça devrait juste être un tas de ruines aujourd'hui.
Ouais, voilà, une ruine pour les touristes. Mais pourtant, Beaumont, une petite cité belge perchée sur un rocher dans le Hainaut, bah elle est toujours bien vivante. Et c'est justement l'objet de notre plongée d'aujourd'hui.
Exactement. Et pour le coup, on a rassemblé une pile de sources hyper variées. Il y a des vieilles chroniques historiques, des archives locales, mais aussi des rapports d'urbanisme très récents.
L'idée, c'est vraiment de décortiquer comment ce passé militaire, qui est quand même super tumultueux, a forcé cette communauté à devenir un vrai laboratoire de résilience.
Et pour comprendre ça, faut commencer par la pierre. En 1050, la comtesse Richild fait bâtir une forteresse.
La fameuse Tour Salamandre, c'est ça?
C'est ça. Et la ville connaît un âge d'or majestueux, surtout sous Charles de Croix, avec ses fameux albums très détaillés. Et après, c'est la chute. Le XVIIe siècle frappe fort.
Oui, le fameux siècle de malheur. Il y a cette peste foudroyante en 1632, et ensuite le siège français en 1655, qui réduit quasiment tout en cendres.
Et il ne reste que la structure en pierre de la tour. C'est ce qui a d'ailleurs donné leur surnom aux habitants, les salamandres.
L'animal mythique qui survit aux flammes, ouais. C'est fou, la tour a agi comme, comme la boîte noire d'un avion, au final, seul le plus robuste a survécu.
C'est une super analogie, ça a servi de fondation pour tout ce qui a suivi.
Mais attendez, il y a un truc qui m'échappe dans la logique de l'époque. S'ils sont constamment attaqués, que tout part en fumée à chaque fois, pourquoi s'entêter? Pourquoi ils descendent pas reconstruire le village plus bas dans la vallée tranquillement?
Parce que la géographie impose des règles impitoyables. Cet éperon calcaire domine toute la vallée de la Hanse. Et au Moyen-Âge, contrôler ce rocher, c'est contrôler les grandes voies commerciales.
Ah, je vois le piège. La position garantit la richesse économique, mais c'est exactement cette richesse qui attire les armées ennemies.
Totalement. On ne quitte pas un point stratégique, même s'il prend feu régulièrement.
Ce qui m'amène à un constat assez fascinant sur la psychologie de cette ville. Si la pierre résiste au feu, la culture locale, elle, survit en digérant ses traumatismes. C'est dingue de voir comment chaque invasion se transforme en folklore.
À l'exemple de Charles Quint en 1549, illustre ça à merveille. Il voyage incognito et se fait détrousser par des malfrats auvergnens.
Ouais, j'ai lu ça. Il arrive en ville, révèle son identité, fait sonner les cloches à midi.
Et à 13h, les voleurs sont pendus. Le résultat aujourd'hui, un proverbe tout simple. Arrivé à midi, pendu à une heure.
Et ils en font une immense fête, célébrée tous les 5 ans. C'est quand même incroyable. Et le mécanisme va encore plus loin avec Napoléon en 1815.
Oui, il installe son bivouac à Beaumont, juste avant le désastre de Waterloo.
Et qu'est-ce que l'histoire locale retient de ce chaos géopolitique?
Que son cuisinier a laissé la recette du macaron de Beaumont.
Que la famille Solbreu fabrique encore à la main depuis 1842 d'ailleurs. C'est fou de se dire que face à un effondrement européen, on préfère s'accrocher à une recette de biscuit, quoi.
Mais c'est un pur instinct de préservation. La grande histoire, avec ses massacres, c'est trop lourd à porter. L'anecdote ou la gastronomie, c'est beaucoup plus agile pour maintenir la cohésion d'un groupe.
D'accord, mais la cohésion par le macaron, ça a ses limites aujourd'hui. Beaumont, c'est devenu très rural. 76% de terres agricoles, une population vieillissante d'environ 7000 habitants.
Oui, mais ça bouge. Les rapports d'urbanisme récents parlent de la CSM, par exemple. C'est un abattoir coopératif pour les éleveurs, pour vraiment favoriser le circuit court.
Oui, il y a ça, et le plan Pimassi avec les primes pour les vélos cargo, sans parler des débats sur les parcs éoliens. Mais franchement, des vélos cargo à la campagne pour des personnes âgées, c'est pas un peu de l'écologie de façade?
Si on s'arrête juste au vélo, ouais, on passe à côté du truc. Faut regarder la logique globale.
C'est-à-dire?
La CESE permet aux éleveurs de maîtriser la transformation sans dépendre des mégastructures. Les éoliennes et la mobilité, ça vise l'autonomie. En fait, Beaumont construit un vrai système immunitaire économique.
Ah, je vois. C'est l'équivalent moderne de la forteresse. Au lieu de murs en pierre pour bloquer les canons, il crée des petites boucles coopératives pour amortir les crises économiques mondiales.
Exactement. Le modèle du circuit court, c'est la stratégie défensive ultime face à la menace de l'effondrement des chaînes d'approvisionnement.
Donc, en rassemblant tout ça, le parcours de Beaumont prend vraiment une autre dimension. On part d'une place forte ravagée par le feu pour arriver à une communauté qui mise sur l'autonomie radicale, toujours unie par cette identité des salamandres.
Et ça prouve bien que l'adaptation d'une ville, c'est jamais linéaire. C'est une série de ruptures qu'il faut digérer et métaboliser.
Ce qui nous laisse avec une vraie réflexion pour clore cette plongée. À l'ère de la mondialisation, on s'imagine toujours que l'innovation vient des métropoles ultra connectées.
C'est le cliché habituel, oui.
Mais on peut se demander si les traumatismes historiques et les pires contraintes géographiques d'hier ne sont pas, au final, le terreau le plus fertile pour inventer l'innovation sociale de demain. Une idée à méditer la prochaine fois qu'on croise un vieux mur en pierre ou qu'on déguste un macaron.